Je vais vous infliger, comme j'ai l'habitude de le faire, un cours de droit un peu abscon. J'essaierai de ne pas être trop long. J'ai combien de temps, Madame la Présidente?
Une vingtaine de minutes, je pense que c'est
Merci.
la pratique que j'ai découverte ce matin.
Alors, en 20 minutes, je vais, dans un premier temps, rappeler quels sont les caractères fondamentaux de ce qu'on appelle sur le programme le travail de la justice. La justice étant représentée par des juridictions, dans un deuxième temps, je ferai le tableau. Avant, c'est comme une valse, dans un troisième temps, de passer au bilan et puis aux petits problèmes que le travail effectué par cette justice laisse subsister. Alors, le travail en question, je vous le rappelle, il est extrêmement particulier, ce qui est souvent source de confusion, d'équivoque dans l'opinion des gens qui ne sont pas juristes et qui, par conséquent, sont des gens normaux. Ce qui caractérise la fonction de la justice, c'est qu'elle doit rendre des décisions qui mettent fin à des litiges, à des conflits. Et ces décisions doivent être justifiées par référence à des dispositions abstraites qu'on appelle des règles que la justice va chercher où elle peut et en principe dans les lois, les règlements. Bref, on justifie chaque décision de justice par référence à des règles dites de droit. Elles deviennent du droit à partir du moment où les tribunaux s'en saisissent. Or, ces règles sont par définition générale, abstraites, et elles doivent être appliquées à des situations conflictuelles qui sont par définition concrètes. Chacune est particulière, chacune est spécifique. Et justice dont nous allons nous occuper ici présente une particularité par rapport à la justice ordinaire, c'est qu'elle est criminelle. Elle est pénale. C'est-à-dire que la fonction dont je viens de définir les grandes lignes est remplie par cette justice de façon à réprimer des individus, de façon à punir. Et ce qui est particulier, un peu bizarre à la base de la justice criminelle, c'est que, comme toute autre justice, elle doit intervenir dans des situations de conflit, mettre fin à des litiges. Or, le litige en matière criminelle a été, si l'on peut dire, déplacé par le système juridique. Et le litige fondamental qui arrive devant le juge, c'est celui qui oppose les auteurs de crimes et des victimes. Les victimes des auteurs en question. Là, il y a un vrai litige réel qui est tellement dangereux que dans tous les pays à système juridique développé, ce litige a été en quelque sorte confisqué. C'est-à-dire qu'on lui substitue un semblant de conflit entre l'autorité publique et les auteurs de crimes, les victimes étant mises dans une large mesure en marge. Et le conflit officiel dont la justice criminelle est saisie, c'est celui qui oppose le procureur à, sur le terrain, la défense, c'est-à-dire le criminel, les victimes étant mises de côté. Cela dit, je dois apporter, avant de passer à l'examen des juridictions qui représentent la justice à propos du génocide des Tutsis au Rwanda, je dois apporter un certain nombre de précisions, disons quatre précisions. Première précision, le travail de la justice criminelle, comme d'ailleurs de toute justice, qu'elle soit criminelle, civile ou commerciale, repose sur l'établissement, la recherche, la preuve de faits. Or, cette recherche est conduite d'une manière qui est essentiellement différente de celle que pratiquent les historiens, dont on vous parlera dans un petit quart d'heure. C'est-à-dire que c'est une recherche orientée, en quelque sorte partisane. C'est une recherche qui vise à établir des responsabilités individuelles. C'est-à-dire que les événements gigantesques, le cas échéant, comme en ce qui concerne le Rwanda, les événements à l'occasion desquels la responsabilité en question a été engagée sont en quelque sorte marginalisés. Ils n'interviennent devant le juge qu'à titre de condition d'un certain nombre d'autres faits beaucoup plus particuliers. Ça, c'est une première caractéristique difficile à avaler par l'opinion publique. Deuxième précision à apporter en ce qui concerne le travail de la justice criminelle, c'est que cette justice, le juge lui-même, le cœur de la justice, l'autorité qui décide, qui tranche, eh bien, ce n'est pas lui qui cherche les faits à partir desquels il va se prononcer, sur lesquels il va se prononcer. En réalité, son rôle consiste à choisir parmi les éléments que lui propose contradictoirement le procureur et la défense. C'est une autre façon de se distinguer de ce que font les historiens. Bien, troisième observation à formuler, c'est que la décision du juge et par conséquent la position qu'il a prise à l'égard des faits est revêtue d'une autorité. Elle s'impose, elle est en quelque sorte obligatoire. Il faut la respecter. Ça n'est pas du tout le cas des recherches historiques qui sont en principe matière de débat. Et cette autorité a encore une particularité très bizarre, c'est qu'elle est, comme on dit, relative, c'est-à-dire qu'elle se limite au cas d'espèce sur lequel le juge a statué à chaque fois. Et ça n'empêche pas cette justice, dernière observation, de faire, comme on dit, jurisprudence, c'est-à-dire que l'accumulation des décisions remplit une fonction qui est quasiment législative. Alors on peut se demander comment, à partir de décisions qui ont une autorité tellement particulière, on peut arriver à formuler des règles de droit, à préciser, à compléter, voire à modifier complètement celles qui existent. Alors, il faut regarder de près une décision de justice pour rendre compte de la manière dont ça fonctionne. En réalité, ce ne sont pas les mêmes éléments de la décision qui ont l'autorité et qui font jurisprudence. Ce qui fait jurisprudence, c'est ce que le juge dit des règles qu'il applique. Ce qui a autorité, ce sont les conséquences qu'il en tire en confrontant ces règles à la situation dont il est saisi. Excusez-moi. Alors, au bénéfice de ces observations préliminaires, il faut que je vous parle maintenant de la justice qui nous intéresse spécifiquement, c'est-à-dire celle qui a été saisie des crimes internationaux commis au Rwanda et dont nous fêtons, si j'ose dire, l'anniversaire. Ces juridictions sont de trois sortes. On vous parlera tout à l'heure de la juridiction la plus spécifique, celle des Gachacha, qui sont spécifiquement rwandaises, moi je me contenterai de faire allusion aux deux autres sortes de décisions, de juridictions. D'abord, merci, la juridiction internationale. Ah bon. La juridiction internationale qu'on appelle le TPIR, c'est-à-dire le Tribunal pénal international pour le Rwanda, et puis ensuite des juridictions nationales, au premier rang desquelles les juridictions françaises. Puis ensuite, il faudra faire le bilan du travail que ces différentes juridictions ont été amenées à conduire. En ce qui concerne le tribunal international, il prend sa source dans une résolution du Conseil de sécurité, une résolution chapitre 7, c'est-à-dire une résolution qui est obligatoire pour ses destinataires. Cette résolution, c'est la 955 du 8 novembre 1994, qui a créé le tribunal et qui a donné à ce tribunal son statut. Statut dans lequel on définit l'étendue du pouvoir du tribunal, ce qu'on appelle sa compétence, les règles de procédure qu'il devra suivre, la durée de sa fonction, etc., etc. Alors, au passage, il faut saluer l'institution de ce tribunal dans la mesure où il marque une espèce de résurrection de la justice pénale internationale. Elle avait failli être fabriquée au lendemain de la Première Guerre mondiale, au détriment du Kaiser, et puis les Hollandais n'ont pas voulu le lâcher, donc on a enterré le projet de cour pénale internationale. Il est réapparu en 1945 avec le tribunal de Nuremberg et puis son petit frère, le tribunal de Tokyo. Et ensuite, on n'a plus entendu parler de justice internationale pendant pratiquement un demi-siècle. La justice pénale internationale a ressuscité à l'occasion des événements de Yougoslavie une résolution 827 du Conseil de sécurité de 1993 a créé un tribunal pénal international pour la Yougoslavie et l'année d'après est apparu le tribunal pour le Rwanda qui est en quelque sorte le frère jumeau du tribunal pour la Yougoslavie. Six jumeaux qu'ils ont une chambre d'appel qui est commune, ce qui fait que, au fond, la jurisprudence de cette chambre peut être attribuée à l'un ou l'autre de ces tribunaux. Et puis, signaler, rappeler que ces deux tribunaux ont été les têtes de ligne d'une série de fabrications des tribunaux spéciaux, mixtes, hybrides, internationaux. Et finalement, vous savez que depuis la Convention de Rome de 1998, nous avons une Cour pénale internationale. Bref, la discipline du droit dit international pénal a pris, à l'époque où on a créé le tribunal pour le Rwanda, un pli qui n'a pas cessé de se développer. Alors, en ce qui concerne le tribunal en question, tribunal international, il faut d'abord s'arrêter une seconde sur sa compétence, c'est-à-dire sur l'étendue de son pouvoir de rendre des décisions de justice, son pouvoir de juger, étendue qui est définie de façon extrêmement stricte, même, devrait-on dire, restrictive, dans trois directions. D'abord, au point de vue de ce qu'on appelle la compétence matérielle, c'est-à-dire, en matière pénale essentiellement, la définition des crimes que le tribunal doit, le cas échéant, réprimer. Et ces crimes, en ce qui concerne le tribunal pour le Rwanda, sont de trois sortes, définies chacune de ces sortes dans le statut. Vous avez d'abord le génocide. C'est l'article 2, alinéa 2, du statut annexé à la résolution 955 du Conseil de sécurité qui définit le génocide en reprenant purement et simplement la définition qui se trouve déjà dans une convention de 1948 sur le génocide. Et il faut faire bien attention aux caractéristiques de ce crime. Il consiste, d'une part, à chercher la destruction d'une population civile ou d'un groupe issu de cette population. Et donc le but de destruction, qui est la première caractéristique du génocide. Et ceci en visant une population caractérisée par son appartenance à un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Et cette caractéristique est considérée en tant que telle. C'est parce qu'il s'agit d'une certaine nationalité, d'une certaine ethnie, d'une certaine race, d'une certaine religion que le groupe doit être détruit. Voilà ce qui caractérise le génocide. Et l'alinéa 3 de l'article 2 du statut réprime à ce titre et à la file et au fond de la même manière le génocide proprement dit, l'entente en vue de commettre le génocide, l'incitation directe ou indirecte, les tentatives, la complicité, tout ça figure dans cet alinéa 3 de l'article 2. Alors, l'autre crime qui constitue, qui relève de la compétence matérielle du tribunal, c'est les crimes contre l'humanité, c'est-à-dire toute une série d'actes épouvantables, meurtres, etc., qui sont intégrés à une attaque généralisée et systématique dirigée contre une population civile. Ce qui caractérise les crimes contre l'humanité, si j'ose dire ordinaires, par rapport au génocide, c'est par conséquent le fait que la population civile victime de ces attaques n'est pas nécessairement menacée de destruction. La destruction, ça relève du génocide, pourvu qu'il y ait le second élément du génocide, c'est-à-dire la population, le groupe de population considéré en raison de son appartenance à telle espèce humaine. Alors, ça ne figure pas dans la définition du crime contre l'humanité. C'est donc l'attaque systématique, généralisée, dirigée contre une population civile, mais peu importe, au fond, les raisons. Ça ne constitue pas un génocide. Puis il y a une troisième sorte d'infraction qui peut paraître un peu bizarre quand on regarde le statut du tribunal. Ce sont les violations graves de l'article 3 commun aux conventions de Genève de 1949 et puis aussi au second protocole annexe additionnel à ces conventions. Dans le statut du tribunal pour la Yougoslavie, qui est le frère jumeau et le modèle du statut du tribunal pour le Rwanda, à ce titre figurent des crimes de guerre. Ils ne figurent pas dans le statut du tribunal pour le Rwanda. Pourquoi n'y figurent-ils pas ? Pour une raison, disons, technique. C'est qu'il s'agit d'un conflit qui n'est pas international. Aux yeux des juristes, c'est un conflit interne, c'est-à-dire une histoire entre Rwandais. Des Rwandais ont tué des Rwandais au Rwanda, chez eux, quoi. Et par conséquent, la notion de crime de guerre, la notion pure, n'est pas directement applicable. On fait ce détour par l'article 3 commun. Alors voilà pour la compétence matérielle. Maintenant, en un mot, il reste deux autres aspects de cette compétence du tribunal. Il y a il faut que je me dépêche. Vous avez un aspect temporel. La compétence du tribunal est limitée aux événements relevant des infractions que je viens de définir, qui se sont produites entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, tout le monde sait ça, et de même que tout le monde sait que les personnes, dernier élément de définition de la compétence, les personnes susceptibles de répondre de ces crimes sont celles qui les ont commis au Rwanda, et là, quelle que soit leur nationalité. Et s'agissant des Rwandais, bien sûr, répondre de ce qui a pu être commis au Rwanda, mais aussi dans les États voisins, pas les autres, c'est comme ça. Alors, il faut ajouter, pour en terminer provisoirement avec ce tribunal, hélas pour le temps, qu'il est en fin de parcours, comme son petit frère sur la Yougoslavie. Une résolution 1966 de 2010, de décembre 2010, institue un mécanisme résiduel pour évacuer les tâches du tribunal qui devrait fermer dans le courant vers la fin de l'année 2015. D'ailleurs, tous les dossiers de première instance ont été évacués, sauf un, et les dossiers en instance d'appel sont gérés par le mécanisme résiduel. Alors maintenant, les tribunaux nationaux, ce sont ceux du Rwanda, évidemment, et puis de différents pays tiers, la Belgique, le Canada, et en ce qui nous concerne, la France, qui a fait à cet égard, disons, du zèle, en adoptant une loi du 22 mai 1996 qui permet aux tribunaux français d'exercer une compétence étendue, dite universelle, le terme est très mal choisi, et qui est concurrente de celle du tribunal international. C'est-à-dire que c'est la même compétence, avec tout de même primauté réservée au tribunal. La justice française doit lâcher son os quand il est réclamé par le tribunal international. Cette résolution a été modifiée en 2013 en considération de la résolution 1966 du Conseil de sécurité. Alors, un mot sur la compétence du tribunal, des tribunaux français en la matière. Avant de passer au bilan et aux problèmes, elle est dite universelle parce qu'elle se distingue de la compétence ordinaire des tribunaux français. Les tribunaux français peuvent être saisis de faits qui se sont produits hors du territoire, alors que normalement, ils doivent juger les crimes et délits commis sur le territoire français. Mais ils sont compétents, et la loi française pénale n'est applicable, à raison de faits qui ont pris place hors du territoire, que lorsque des Français ont été auteurs d'infractions ou lorsqu'ils ont été victimes d'infractions. Mais ce qui se passe entre étrangers et à l'étranger ne regarde pas, en principe, les juridictions françaises. En principe, la loi de 1996 qui donne compétence aux tribunaux français et concurremment au tribunal international fait exception au principe. Il étend la compétence, les Français peuvent juger, eh bien, en vertu de cette loi, des Rwandais qui ont commis des crimes contre d'autres Rwandais au Rwanda. Et pas seulement des Rwandais, des gens de toute nationalité. C'est pourquoi on a parlé de compétence universelle. Il y a une seule condition pour qu'elle joue, c'est que les personnes poursuivies soient trouvées en territoire français, au besoin de passage. Alors le bilan, en ce qui concerne le tribunal international, il a rendu, je crois, en début 2014, 38 jugements de condamnation, il y a 8 acquittements, il y a 19 jugements d'appel, il y a une dizaine d'affaires en cours, et 9 accusés qui sont en fuite. Ce qu'on peut dire pour apprécier ce que le tribunal international a fait, c'est qu'il a jugé en principe des gens d'un statut élevé, le premier ministre Kambanda, l'illustre colonel Bagasora. La piétaille est abandonnée aux juridictions nationales. Il a d'autre part appliqué et interprété de façon, disons, satisfaisante le statut du tribunal. Il a, en ce qui concerne le génocide essentiellement, constaté et proclamé qu'il y avait eu un génocide. Au point de vue juridique, au moins, ça ne peut plus se discuter sérieusement, le génocide des Tutsis. Et il a jugé aussi qu'il n'y en avait qu'un, celui-là. Il a qualifié le génocide de crime des crimes. Bref, il a fait, dans une large mesure, son travail de justice. Maintenant, on peut lui reprocher un certain nombre de choses. D'abord, la lourdeur et la lenteur, le coût des procédures qui sont inspirées du monde anglo-saxon. Ensuite, un certain nombre d'abstentions. Il y a des choses qu'il n'a pas fait, parce que son procureur ne l'en a pas saisi, notamment ce qui concerne l'attentat contre l'avion présidentiel qui a déclenché le génocide. Ça, c'est la justice française exclusivement qui s'amuse avec ça. Il n'y a pas, pratiquement pas, d'étrangers qui aient pu être poursuivis devant le tribunal et condamnés par lui. Il n'a fait le ménage que parmi les Rwandais. Et il n'a pas instruit, le moins du monde, les crimes qui pouvaient être reprochés à la partie adverse, au FPR. S'il l'avait fait, ça aurait permis peut-être de priver d'arguments un certain nombre de négationnistes, vous savez, qui vous parlent des doubles génocides, etc. Et puis, on pourra en discuter éventuellement, mais ça n'est pas la faute du tribunal. Un certain nombre de fantasmes ont été induits par certaines décisions. Par exemple, à propos du colonel Bagosora, le tribunal a constaté qu'il n'était pas établi qu'il ait participé à la planification du génocide. Vous avez des gens comme M. Lugan, par exemple, qui s'en sont servis pour expliquer que le tribunal avait jugé que le génocide n'avait pas été planifié. Ça ne tient pas debout, mais c'est comme ça. Alors, reste à dire un mot des tribunaux français. Leur bilan n'est pas extraordinaire. On peut mettre en avant d'abord la lenteur extraordinaire de ces tribunaux. Une vingtaine d'affaires sont pendantes devant eux, dont une dizaine concerne des militaires français. Un seul arrêt a été rendu en mars 2014. Visant un capitaine qui a été condamné pour avoir participé au génocide. La France aussi a été condamnée, pas pour avoir participé au génocide, mais pour la lenteur de ses procédures, ceci par la Cour européenne le 8 juin 2004. Et puis, il faut signaler au passage, c'est en train de s'arranger vraisemblablement, les bafouillages de l'instruction concernant l'attentat d'avril 1994, l'ordonnance rendue par l'illustre juge Bruguière, qui est une espèce de chef-d'œuvre d'imbécilité perfide, il y a des difficultés sur lesquelles je vous ferai grâce, parce que là j'ai épuisé mon temps, en ce qui concerne notamment l'extradition en direction du Rwanda de ressortissants rwandais qui se trouvent en France. On ne peut pas les extrader vers le Rwanda, dit la Cour de cassation, donc il faut se les garder. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, on va les juger, le cas échéant, et le seul fondement de ce jugement, c'est la loi de 96. Et on devrait les juger par application du statut, mais les tribunaux français font un mélange franchouillard entre ce qui relève du statut, leurs compétences, et puis ce qui concerne le fond, à ce moment-là, ils appliquent, on ne sait pas pourquoi, la loi française. Vous me direz, du moment qu'on rend la justice, qu'est-ce que ça peut faire? C'est chatouilleux pour les juristes qui tiennent au respect de la technique. Voilà, Madame la Présidente, je m'excuse d'avoir été trop long.